Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
C'est l'histoire d'une femme que vous avez peut-être croisée dans la rue, en tout cas si vous habitez en région parisienne, en vous disant « Mais quelle belle femme !» sans savoir d'où elle vient et ce qu'elle a enduré pour être un mannequin, un top modèle ici, en France. Elle s'appelle Nexia, c'est une Iranienne. Elle a fui son pays parce que pour avoir montré son corps, elle risquait 148 coups de fouet. Alors elle s'est réfugiée à Paris, où vous verrez, on ne lui a pas réservé un accueil vraiment digne. Elle raconte son histoire dans un livre, « Dis adieu à ton corps », qui paraît aux éditions du Cherche Midi. Elle sera là tout à l'heure pour le débrief de son histoire. Histoire que j'ai écrite avec Tuc Duhal de Dieu le veut. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je me souviens, je suis toute petite. Et j'arrive à la maison après l'école et je lâche mes cheveux qui ont été retenus par le hijab toute la journée. Puisqu'une fille, ça ne montre pas ses cheveux. Puisqu'une fille, ça se cache. Puisqu'une fille, ça se tait. Eh bien, pas moi. Déjà fillette, je refuse de vivre à moitié. Je sais qu'une grande destinée m'attend. Je sais que je serai artiste, danseuse, actrice. J'en suis certaine. Et j'ai déjà la langue bien pendue. Je pose 1000 questions. Dis, papa, pourquoi l'ayatollah Khomeini, il est toujours en colère sur les photos? Dis, papa, puisque Dieu sait tout, pourquoi je dois prier en arabe? Il connaît pas notre langue? Le farsi? Mon père, ça le fait rire. Mais ma mère, ça l'exaspère. Dans ma chambre, je passe des journées entières à danser. Je danse sur du hip-hop, de la musique orientale, du flamenco. Je rêve d'un ailleurs. Paris, Londres, Hollywood. Quand je danse, je me sens forte. Rien ne m'arrête. J'ai déjà compris que la danse a un pouvoir incroyable, que c'est une rébellion, que c'est comme un formidable souffle de liberté. Je grandis dans le nord de Téhéran, dans un quartier huppé, un grand appartement au quatrième étage d'un bel immeuble. Et j'ai le droit d'inviter des amis à la maison, mais pas d'aller chez elle. Maman a peur. Mais papa tente de la convaincre.
Enfin, elle est fille unique. Elle a besoin de se défouler comme les autres. De pourrir, de tomber, c'est la vie. Non, il n'en est pas question.
Vous avez compris que ma mère est le chef à la maison. Réservée, timide en société, mais tyrannique chez nous. Mes parents sont tellement différents que je me demande s'ils ont été amoureux un jour. Je me souviens du premier jour de ma rentrée à l'école des filles et de mon horrible uniforme, une tunique bleu foncé avec un voile blanc serré sous le menton.
Je porterai jamais ça! C'est moche! Si tu veux t'instruire et aller à l'école, tu dois le porter, ma fille. Je préfère rester analphabète que de porter ça. Je sais que c'est difficile d'être jolie comme ça, mais c'est pareil pour toutes les écolières. Allez, ma chérie, c'est juste pour quelques heures par jour.
Quand j'arrive dans la cour, retentit l'hymne national iranien. J'ai l'impression d'être dans une école militaire. Le premier jour, je suis ami avec tout le monde. Mais je suis une élève difficile et dissipée. Grandir en Iran dans les années 90 implique silence et calme. Et moi, je parle fort. Et j'ai du mal à me plier à la loi islamique. Mais ma famille n'est pas pratiquante. Nous n'allons jamais à la mosquée. J'ai maintenant 14 ans. Et dans quelques mois, je vais entrer au lycée.
Alors, mademoiselle, quel métier est-ce que vous voulez choisir?
Ma mère ne veut pas que je fasse des études artistiques. J'ai le choix entre devenir ingénieur comme mon père ou médecin.
Mais j'ai peur du sang. Je peux pas être docteur. Et je déteste les maths, je peux pas devenir ingénieur. Tout le monde ici choisit le métier de ses parents. Moi, je veux pas faire un choix par défaut. Ça suffit maintenant. Sors d'ici.
La directrice fait venir mon père. Et au retour dans la voiture tous les deux, on a une grande discussion. Je crois en toi, ma fille. Tu es très intelligente. Et t'es différente des autres. Tu pourras devenir ce que tu veux. Et t'auras un bel avenir. Mais pour l'instant, ta mère n'acceptera pas que tu fasses une école d'art. Mais si tu fais, disons, un choix conventionnel pour le lycée, ben après tu feras ce que tu voudras. Tout sera possible, ma fille. Mon corps a beaucoup changé. Maintenant, j'ai des seins, plutôt généreux. Les gens me disent que je suis belle, mais moi, je me trouve laide. Mes copines ont le droit de sortir seules, mais moi, ma mère me l'interdit toujours. Elle m'accompagne partout, et elle me bourre le crâne de principe pour que je reste une fille sage. Comment je dois trouver un bon mari, devenir une bonne épouse. Mais moi, même si je n'ai pas conscience de ma beauté,
en revanche, je pense énormément au sexe.
Beaucoup plus, je crois, que les filles de mon lycée. Avant le mariage, c'est interdit, bien sûr. Et braver cet interdit, c'est être considéré comme une prostituée. J'en ai parlé avec maman. Elle m'a raconté des choses horribles sur le sexe, pour m'en dégoûter.
Ah ben, je me souviens avec ton père. Perdre sa virginité, ma fille, ça fait très mal.
À 5 mois de la fin du lycée, ma mère m'autorise enfin à sortir seule. Et j'ai repéré un garçon dans un magasin qui vend des DVD. Il s'appelle Farzad. Il a les yeux très clairs et des cheveux très noirs. Il est étudiant en architecture. Plus âgé que moi, il a 20 ans. Il me demande mon numéro. Et un jour, il m'appelle. Et à partir de là, le mercredi après-midi, on se donne rendez-vous dans un parc. Et on passe 1h30 ensemble. On va au cinéma ou boire un café. Et puis un jour, il m'embrasse sur la bouche. Et là, moi, je le repousse.
Mais enfin, t'es fou, Farzad. Si la police nous voyait.
Ça fait plusieurs mois que je sors avec Farzad. Je ne suis pas amoureuse, mais je me sens bien avec lui. Et surtout, je me sens prête. Alors un jour, il me déshabille tout doucement. Il m'embrasse délicatement. Et moi, je laisse le désir m'envahir. Et puis d'un coup, je repense aux mots de ma mère.
Une fille, Nexia, ne doit pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Elle n'autorise personne sauf son mari à la voir nue. Sinon, tout le monde te considérera comme une prostituée. Arrête, Farzad! Tu m'entends? J'ai dit stop.
Mais c'est trop tard. Je sens la douleur me déchirer. Je le repousse et je hurle.
Quand je dis stop, Farzad, ça veut dire stop. Mais c'était ton idée. Tu le voulais pas vraiment. Ben maintenant, je le veux plus.
Ça n'est pas vraiment un viol, puisqu'au début, je voulais vraiment faire l'amour. Mais je viens de perdre ma virginité sans vraiment comprendre ce que le sexe signifie. Le soir, j'appelle ma meilleure amie, Samira. Elle connaît tous mes secrets. Elle m'écoute. Et elle trouve les mots pour m'apaiser. Et à la fin de notre conversation, je vois ma mère, dans l'entrebâillement de la porte, tapie dans le noir. Elle a tout entendu. Mais elle n'entre pas pour me consoler. Rien. Pas un mot. Pas un geste tendre. Quelque temps plus tard, je vois des hommes remplir un camion devant chez nous. Alors je cours jusqu'à notre appartement, j'entre. Vide. Vide ou presque. Et ma mère et mon oncle qui crient.
Allez, allez, on se dépêche. Pas la peine d'emballer, pas la peine d'emballer. On y va.
Je m'approche de ma mère. Elle m'ignore complètement. Alors je la secoue par les épaules.
Mais enfin, maman, t'es devenue folle ou quoi? Parle-moi. Qu'est-ce que tu fais?
Et là, mon oncle intervient pour nous séparer. Et il me frappe si fort au visage que j'en ai le souffle coupé. Et il me frappe encore.
Crève, salope! T'es une honte pour notre famille!
Et maman resta passible. Elle fait un dernier tour du propriétaire. Elle s'approche de moi et elle me dit en souriant.
Au revoir, ma fille.
Maman est partie et je ne l'ai jamais plus revue. Désormais, je vis avec mon père. C'est la personne que j'aime le plus au monde. Et ma mère, quand on me demande, ben je dis qu'elle est morte. Il y a un studio photo en face de chez nous. Et un jour, je pousse la porte. Et j'apprends la photo de mariage. Je peux enfin laisser s'exprimer ma créativité.
Ah, la première fois que t'es rentré ici, Nexia, je me suis dit que t'étais juste une fille un peu dingue, quoi. Mais t'as du talent. Je suis fier de toi.
Sauf que mes collègues sont jaloux. Et un jour, je suis renvoyé. Qu'importe. Dans la foulée, j'écris aux chanteurs et aux stars pour leur proposer une séance photo. Pas des chanteurs officiels, hein. Des chanteurs underground qui enregistrent leurs chansons dans des studios clandestins et qui les diffusent sur Internet. Je deviens une bad girl qui fume trop, qui boit trop, qui fait trop la fête et trop l'amour. Mais une fille libre. C'est en faisant des photos de mode dans le milieu clandestin qu'un jour le directeur d'une grande marque me dit
« Je pensais quelque chose en te regardant. Est-ce que tu as déjà envisagé d'être mannequin ? Je t'ai regardé, tu es grande, tu as du charisme. Tiens, passe ce manteau. »
Et assez vite, je deviens un mannequin en vue et je suis contacté par des marques. Je pose sans voile islamique, bien sûr. C'est une grosse prise de risque. Et un matin de 2015, impossible de me connecter à mon compte Instagram. La police de la vertu vient de fermer tous les comptes des photographes et des mannequins. La situation commence à se tendre. Et continuer, c'est s'exposer à la prison et à des coups de fouet. Un mois plus tard, le gouvernement annonce que la mode passe sous le contrôle de la loi islamique. Et beaucoup de photographes et de mannequins fuient le pays. Mais moi je n'ai pas peur. Je ne veux pas arrêter. Et je trouve de jeunes photographes qui n'ont pas peur non plus. Et au lieu de me cacher, au contraire, j'expose mon corps de plus en plus. Je travaille maintenant pour des marques de lingerie, en tenue légère et sexy. Mais désormais sur Instagram, je change de compte tous les jours. Et je partage un jour ma première photo de moi dénudée. Assise par terre avec de grandes feuilles pour cacher mon corps et seulement une jambe relevée et une épaule qui dépasse. Commentaire.
Quel courage ! Salope ! Tu penses pas à tes parents ? Tu veux coucher avec moi ?
Cette fois-ci, je suis entièrement nu devant l'objectif, avec mes tatouages. Et ça n'est pas une simple séance photo, c'est un acte militant.
Vas-y, retourne-toi. Je veux prendre les tatouages de terrain, vas-y. Ne te retourne pas. Attends, je règle la lumière.
5 secondes plus tard, je sens quelque chose de dur contre mes fesses. Alors je me retourne. Le photographe est complètement nu. Je le repousse, je remets mon manteau, mon foulard, et je cours récupérer mes vêtements. Il me poursuit. Il me tire par les cheveux. J'arrive à ouvrir la porte. J'arrive à ma voiture. Je suis en colère. Et dans la foulée, je le dénonce sur Instagram. Une heure après, il m'écrit. Dis adieu à ton corps, salope. Et après ça, plus personne ne veut plus me faire travailler. Et j'apprends que ce photographe est un espion recruté par le gouvernement.
Nexia, faut que tu quittes Téhéran pour quelque temps. Je te préviendrai quand ce sera calmé.
Alors je vais dire au revoir à mon père et à ma grand-mère. Et je file à l'aéroport pour tenter de prendre le dernier vol pour Istanbul. Je passe les contrôles de sécurité sans problème en cachant mon visage dans mon hijab. Et j'atterris en Turquie très tôt le matin. Je pensais ne rester que 2 semaines. Ça fait 2 ans que je suis à Istanbul. Et je continue à être mannequin. Et j'ai enfin des nouvelles d'Iran par un copain photographe. J'ai été arrêté, Nexir. Et au cours de mon interrogatoire, ils m'ont montré des photos de toi. Ils voulaient savoir ton vrai nom. Car en Iran, aucun photographe ne connaît mon nom ni mon adresse. Mais donc maintenant, je suis recherché. Je ne peux plus rentrer en Iran. C'est trop risqué. J'appelle mon père.
Ma fille! Ma fille, nous pensons tous à toi, hein, tu sais. Nous t'aimons très fort. Mais tu dois rester là où tu es. Hein. Prends pas de risque. Reste où tu es, Nexia. Reste où tu es. Ne te mets pas en danger.
Cela dit, je suis bien en Turquie. Mais je ne me sens pas chez moi. Et puis à Istanbul, il y a beaucoup d'Iraniens. Et j'ai peur des espions. Je tremble quand j'entends parler farsi dans la rue. D'autant qu'à l'été 2018, le copain photographe qui m'avait dit qu'ils avaient des photos de moi revient me voir avec une liste de noms. Et le mien est en tête.
Nexia, ils ont toutes tes photos. Toutes. Maintenant, ils savent que tu vis à Istanbul. N'envisage même pas de rentrer au pays. Je suis désolé, Nexia. Faut que tu partes.
Et là, je pense à mon père, qui me manque tellement. À ma grand-mère, qui est vieillissante. Est-ce que je les reverrai un jour? Mon ami photographe m'a dit que ce qui m'attend à Téhéran, c'est la prison et 148 coups de fouet. Tout ça parce que je suis une femme libre. Quelques jours plus tard, j'en parle à un ami turc.
Je connais un avocat. Il s'appelle Arif. Il est très influent, je pense qu'il peut t'aider à partir.
Cet avocat, on déjeune ensemble et je lui raconte mon histoire.
Je pense que je peux t'aider à quitter la Turquie et à aller en Europe. Je peux t'avoir un visa et même des contrats en Europe là-bas.
Vraiment ? J'ai essayé d'avoir un visa pour les États-Unis et pour l'Europe avec un passeport iranien. J'ai essuyé que des refus.
Je te dis de choisir ta destination. Je m'occupe du reste.
Dans ma tête, j'ai déjà choisi Londres. Mais je sais pas pourquoi, au lieu de dire Londres,
ben je voudrais aller à Paris.
Ok, Nexia, ok. Va pour Paris.
Pendant plusieurs jours, on remplit les papiers. Il me fait signer un contrat avec une agence de mannequins à Paris. Et j'obtiens mon visa. Mais là, il me pose une étrange question.
Si je te dis que je veux t'épouser, Nexia, hein, et acheter un bel appartement à Paris avec vue sur la tour Eiffel, pour toi et pour moi, ça te rendrait heureuse?
Je suis estomaqué. Je le regarde droit dans les yeux.
Je te le dis tout de suite, c'est non. Eh ben alors débrouille-toi toute seule, ma grande.
Le lendemain, je passe ma journée à écouter de la musique. Une jolie chanson très, très mélancolique, que je ne comprends pas, bien sûr, mais qui est une révélation.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps.
Paris m'appelle, j'ai mon visa, après tout. Je pars demain, seul.
Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
Je débarque à Paris en octobre 2018 avec 2 grandes valises. Je ne sais pas où je vais. Je n'ai pas réservé d'hôtel. Mais quand j'arrive dans le centre de Paris en taxi, je pleure. Je pleure devant cette beauté à couper le souffle. Et je tombe tout de suite amoureuse de cette ville. C'est ici que je vais réaliser mes rêves. Je n'ai
aucun doute. En attendant, je passe d'hôtel en hôtel et mes économies s'amenuisent. Et je comprends vite que la vie en France va être rude. Car pour avoir un appartement, il faut que j'ai un salaire. Et pour avoir un salaire, il faut que j'obtienne le statut de réfugié. Et je peux vous dire que quand j'arrive avec ma robe Dolce Gabbana devant la longue file d'attente du centre d'accueil des demandeurs d'asile, je ne me sens pas dans le décor. Au retour, je descends à la station Saint-Michel. Et là, Notre-Dame se révèle à moi. Et ça me donne la chair de poule, je suis très ému. Alors je m'assois face au monument. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Et je parle à Notre-Dame. Je l'implore. Notre-Dame, dis-moi que je ne me trompe pas. Dis-moi que je suis ici. Au bon endroit, à Paris. Fais-moi un signe. Parle-moi, ma belle. Juste un signe. Et là, les cloches de Notre-Dame commencent à sonner. Et pour moi, c'est le signe. Quand Notre-Dame a brûlé des mois plus tard, j'ai été bouleversé. Assez vite, des hommes tentent de profiter de moi, bien sûr. Victor, qui m'héberge et qui prétend qu'il est touché par mon histoire et qui dit qu'il veut m'offrir tout ce que je veux. Et pourtant, j'ai été clair. Victor, je te le dis tout de suite. Je ne me prostituerai pas pour avoir un logement. Et puis, il y a Léo, qui me dit qu'il travaille dans le show business et qui propose de m'héberger. Et de me trouver un travail pour lequel je n'aurai pas besoin de papier. Et assez vite, je découvre que c'est un rabatteur. Il voulait me prostituer. Il a même voulu me kidnapper. Et puis il y a un photographe qui me présente à un chanteur qui va lancer une marque de vêtements. Il veut que je sois son égérie. En vérité, il voulait juste coucher avec moi. Et voilà comment, au bout de 3 mois, je me suis retrouvé à la rue. Il fait nuit. Les rues sont vides, je traîne mes 2 valises derrière moi. Je ne sais pas où aller. Alors je marche des heures. Il est 4 heures du matin. Je n'ai pas trouvé de banc pour dormir. Alors je m'allonge sur mes bagages. Je regarde le ciel. Le ciel est désormais mon toit. Le matin, je vais quand même dans une salle de sport pour m'entretenir. Là, je peux prendre une douche, me brosser les dents. Parce qu'avant de me retrouver à la rue, j'ai passé un casting. Et par miracle, j'ai été choisi. Et la séance photo doit avoir lieu dans 5 jours. C'est ça qui me fait tenir. Il faut que je sois en forme. Mais comment me maintenir en forme en dormant dehors et en ayant froid et faim? Je suis allé dans une église et j'ai commencé à parler à Dieu. Et on m'a jeté dehors. J'ai dormi dans un parking derrière une voiture. Mais il y avait de la musique trop forte et je n'ai pas pu fermer l'œil. Je suis allé au bureau d'aide aux réfugiés. On m'a dit qu'il fallait encore attendre 6 mois.
6 mois? Mais 6 mois de plus, je vais mourir. Je dors dans la rue.
Vous, à la rue? Je peux pas le croire, ça.
Paris ne m'aime plus. Et je crois que je n'aime plus Paris. Sois forte, Nexia. Entraîne-toi. Plus que 2 jours avant la séance photo. Et ensuite, tu pourras te payer un hôtel. J'entre dans le studio pour la séance photo. J'arbore un sourire radieux. Mais je lis tout de suite dans le regard du photographe qu'il est surpris de l'état de ma peau et par mes cernes.
Ma peau est pas toujours comme ça, vous savez.
Et là, il quitte la pièce. Et moi, je suis inquiète. Alors quand il revient, je lui explique tout, tout. Et là, je vois une autre mannequin s'approcher et écouter. Et puis la séance photo commence. J'enchaîne les poses. Je change plusieurs fois de tenue. Ça dure des heures. Et à la fin, le photographe me paye. Et il me rassure.
Je vous ai trouvé très bien, Nexia. Vraiment bien.
Et là, l'autre fille qui avait tout entendu me dit
« Ça te dirait qu'on aille boire un café ?»
On s'installe à une terrasse et à elle aussi je déballe tout. Et à la table d'à côté, je vois un homme d'une cinquantaine d'années qui nous écoute en lisant son journal.
« Madame, je crois que je peux vous aider. Je suis journaliste à l'Express. Appelez-moi. »
Et je l'appelle. Et il tient parole. Et la médiatisation de mon histoire porte vite ses fruits. Un avocat d'origine iranienne m'appelle.
Je crois qu'il faut médiatiser encore plus votre histoire, Nexia. Je vais vous organiser une interview.
Et c'est comme ça que mon histoire fait le tour du monde. Italie, Espagne, Royaume-Uni, Thaïlande, Argentine, Russie. C'est comme ça que je reprends espoir. C'est comme ça que ma demande d'asile est enfin acceptée. Mais pour obtenir ma carte de séjour, il me faut une adresse. Et pour obtenir un logement, il me faut la carte.
Personne suivante, s'il vous plaît.
Et je repasse une nuit dans la rue. Et là, je déniche même le contact d'un passeur pour aller en Angleterre. Cher monsieur Castaner, je vous écris avec le cœur brisé. Je suis fatigué par les faux espoirs. Jusqu'à présent, la France n'a pas vraiment voulu devenir ma maison. Elle ne m'a pas donné la chance d'en faire ma patrie. Vous avez pris récemment ma défense sur Twitter. Je pensais que les épreuves étaient derrière moi. Mais vous m'avez menti. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en supplie. Ne me laissez pas mourir. Il me faut encore attendre des semaines. L'intervention de députés, celle de Marlène Schiappa.
Allô ? Tu vas pas croire ce qui arrive, Nexia. Je viens d'avoir l'Élysée au téléphone. Ils vont contacter l'Office des réfugiés.
Et 30 minutes plus tard, je reçois un email de l'OFPRA. Je décroche enfin ma carte de résident. C'est mon sésame pour la liberté. Papa, tu m'as toujours dit...
Tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Ma fille, parce que tu es différente.
Je vais te donner raison, papa. Et je te ferai venir auprès de moi. Crois-moi, papa. Car je ne renonce jamais à mes rêves.
Ce sont les dernières phrases de votre livre, Nexia. Merci d'être là, un peu ému.
Merci à vous. C'est plus qu'un pou.
C'est plus qu'un pou.
Oui.
Vous en êtes où avec votre papa?
Mon père habite en Iran, mais oui. Il a changé les villes.
Oui.
Parce que les gouvernements dérangeaient lui et il a changé les villes. Mais...
Vous essayez de le faire venir en France?
Oui, mais en fait, franchement, il a famille là. Il a sa mère. Toutes les familles sont là.
Oui.
Et il m'a dit, c'est pas possible que j'ai changé toute ma vie. Je suis vieille et c'est pas possible. Donc, je demande à lui, mais c'est pas possible.
Vous l'avez au téléphone?
Oui, bien sûr.
Ouais.
Bien sûr.
Par mail aussi?
Non.
Non.
Non, juste téléphone.
Donc, si vous ne pouvez pas retourner un jour en Iran, vous ne reverrez pas votre papa?
Non, mais... En fait, j'attends pour mon situation bien mieux
oui.
que j'invite mon papa pour venir ici à Paris.
Oui.
Mais maintenant, je dois en fait trouver mon maison, travail, toutes les choses. Parce que je voulais être vraiment, vraiment fière de moi.
Mm.
J'ai pas envie, parce que maintenant, oui, j'ai mon carte de séjour, mais la situation est trop difficile. Avec le COVID, c'est trop, trop difficile pour tout le monde.
Mm.
Mais pour les gens réfugiés, c'est plus difficile. Parce que j'ai reçu mon carte de séjour 2 semaines avant confirmement, permis confirmement.
Ma pauvre.
Et maintenant, oui, je suis libre, mais quoi? Je fais quoi?
Couvre-feu.
Exactement.
Est-ce qu'il y a des conséquences pour votre papa en Iran?
Un peu, oui.
Ouais. Le livre, c'est pour ça que vous ne le signez que de votre prénom, Nexia.
Ouais.
Ouais. Même si les autorités iraniennes savent très bien qui vous êtes?
En fait, et pas tout le monde. En fait, j'ai toujours fait attention pour mon vrai nom et prénom.
Mm.
Donc, il y a quelques amis qui sont vraiment connus, je suis qui.
Mm.
Et tout le monde connaît Nexia.
Mm. La grande question, je trouve, qui n'est pas totalement expliquée dans le livre, c'est d'où vous vient ce désir farouche d'être une femme libre? Pas de votre mère. C'est ce qu'on comprend. De votre père, alors? Ou alors?
Je sais pas, j'étais comme ça. Quand j'ai né, j'étais comme ça. Et en fait, je pense que nous sommes toutes libres, mais dans mon pays, c'est plus difficile.
Mm.
En fait, je pense que c'est juste dans mon pays que les femmes, ils sont pas libres.
Mm.
Et c'est pas possible de choisir qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux choisir pour vêtements, travail, toutes les choses.
Mm.
Mais maintenant, quand je voyage en Turquie, même chose, islamique, mon pays. Et je me dis, quand j'arrive à Europe, ici, c'est que toutes les choses sont normales ici.
Ouais.
Donc, les femmes, elles sont libres. Mais mon vrai combat, c'est en Europe, c'est en France.
Mm.
Parce que je comprends que, en fait, liberté n'existe pas pour les femmes. France aussi.
Ah, en France aussi?
Oui, en France aussi. Je vous écoute à mon histoire. Je me trouve dans les roues à cause de qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce que les gens me disent pour mon choisir, pour mon vêtement, pour mon histoire, pour toutes les choses.
Mm-hmm.
Et personne peut accepter une femme qu'elle veut être libre et faire sa vie toute seule.
Même en France?
Même en France.
Vous êtes sûre?
Oui, je suis sûre. Et maintenant, en fait, je suis choquée parce que j'ai parti un pays et je viens en France. Maintenant, j'ai entendu qu'il y a règles pour sexe des femmes, dans les filles, maintenant, légalement, pour avoir sexe quand elle a 13 ans.
Ouais.
Et c'est bizarre parce que dans mon pays, c'est normal.
Hmm.
Mais j'arrive à France et j'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe à France? Ça vient comme Iran? Parce que c'est bizarre, il y a beaucoup, les femmes ici aussi, ils sont pas libres. Et je pense que liberté, c'est pas juste, je ne sais pas, nous cherchons pour liberté, nous fait combattre pour liberté, mais dans notre tête, nous sommes pas libres.
Mais vous êtes une féministe, en fait, mais une grande féministe, parce que vous étiez féministe en Iran, mais finalement, ce que j'entends là, c'est que vous êtes encore plus féministe en France.
Je suis pas féministe et je déteste quand les gens disent que nous sommes féministes. Féministe, quand vous direz que vous êtes féministe, encore vous dites nous sommes différents.
Mm-hmm.
Je pense que nous sommes humains. Les hommes et les femmes, nous sommes mêmes.
Oui.
Donc, je suis pas féministe. Féministe dirait que nous sommes meilleurs ou nous sommes mauvais. Non,
oui.
Nous sommes dans le même level. Il y a beaucoup les hommes dans la même situation que les femmes.
Mm.
Donc...
Alors, à votre avis, Nexia, parmi les jeunes femmes qui vivent, par exemple, à Téhéran ou dans les autres grandes villes d'Iran, quelle est la part des filles qui pensent comme vous? Une majorité ou une minorité?
Quand j'ai écrit ce livre, c'était trop intéressant que j'ai reçu beaucoup de messages en Iran.
Oui.
Et c'est intéressant dans d'autres pays aussi, en Europe, en États-Unis. Mmh. J'ai reçu beaucoup de messages à beaucoup de différentes femmes qu'ils sont trop jeunes. Mais c'est intéressant pour moi que tout le monde m'a dit « bravo ». Mais quand je demande, j'ai toujours répondu à les gens qui demandent quelque chose à moi. Je suis pas parfait. Je suis, j'arrive pas à mon réussir à mon rêve.
Oui.
Donc je peux pas dire quelque chose que je peux comment vous dire lead les gens pour la vie.
Oui.
Mais avec mon expérience, je toujours répondre à les gens et je dirais en fait vous devez souhaiter jump oui, dans sauter. Votre lit. Oui, parce que tous les noms, on pense à continuer pour notre rêve, être libre. Il y a beaucoup de choses que nous besoin dans la vie. Mais personne jump et saute pour oui. avoir toute la vie dans les risques, pour oui. avoir ses rêves aux libertés ou autre chose.
Mais dans la tête mm-hmm. des jeunes iraniennes qui ont, je ne sais pas, 18, 19 ans, 20 ans, elles pensent comme vous et elles se cachent ou elles adhèrent à la rigueur du régime?
En fait, dans mon pays, il y a deux possibilités. Il y a beaucoup de gens qui s'en cachent parce qu'ils ont peur. Et il y a un autre genre, comme moi, on fait exactement ce qu'on veut.
Oui.
Mais après,
on paye
moi, moi, je porte mon pays. Il y a beaucoup de gens que le gouvernement a arrêté et ils sont dans les prisons ou ils sont morts maintenant. Donc, en Iran, c'est comme ça.
Donc, vous comprenez que les jeunes filles de votre âge en Iran, elles soient moins courageuses que vous?
Je ne peux pas dire ça parce que j'habite dans mon vie. Peut-être qu'il y a beaucoup de filles plus fortes et plus courageuses que moi. Donc, ce n'est pas possible de dire ça.
Alors, quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Vous dites, ma famille n'est pas pratiquante. On ne va jamais à la mosquée. C'est possible ça en Iran?
Oui, c'est possible. Ici aussi. Vous avez beaucoup de gens qui...
Oui, mais ici, je savais, mais en Iran, je pensais qu'en fait, celui qui n'allait pas à la mosquée... Tout le monde le montrait du doigt.
Vous connaissez pourquoi? Parce qu'en fait, vous voir Iran dans la TV.
Oui.
Et dans la TV, ils montrent Iran comme nous sommes tous respectés, gouvernement, oui, et nous sommes religieux. Non, en Iran, nous avons beaucoup de gens comme moi. Il y a beaucoup de gens comme moi.
Beaucoup.
Beaucoup.
Vous êtes croyante, finalement?
En fait, je crois qu'il y a quelque chose. On peut dire que c'est Dieu. Parce qu'il y a quelque chose quand je demande. Il m'attend, ou il me donne les bons résultats, ou il me montre les bonnes routes.
Oui.
Et pour tous les noms, nous, si on a besoin d'avoir quelque chose dans la vie, si on fait combattre pour quelque chose, sans doute, on va arriver dans le bon moment, bon droit, on va arriver et réussir. Donc ça, c'est énergie, on peut dire Dieu, ou quelque chose, je crois de ça.
Mais vous priez à Notre-Dame, qui est donc une cathédrale catholique chrétienne. Donc vous avez une vision large de Dieu. Hein? Vous croyez en Allah?
Je croyais à mon Dieu.
Pas sûr.
Oui, je ne sais pas. Il s'appelle comment? Je crois qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas. C'est Dieu, c'est énergie, c'est quoi? Il y a quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi.
Vous faites Ramadan?
Moi, non, c'est pas vrai. Parce que, désolé, en fait, il y a beaucoup de gens qui croient de Ramadan. Mais dans mon pays, ils ont dit que Ramadan, c'est pour comprendre les gens pauvres. Et comprendre que comment les gens pauvres habitent. Mais si vous voulez comprendre que les gens pauvres, comment ils en habitent, je pense que c'est mieux qu'on aide les gens pauvres, pas à moi, manger rien. Je ne sais pas, ça ne marche pas dans mon tête.
Ça ne marche pas dans votre tête. Vous mangez du cochon?
En fait, manger des animaux, c'est mauvais. Donc, ce n'est pas grave si vous mangez du cochon ou non.
Non.
Donc, je mange, quand c'est pas vraiment bien à manger les animaux. Donc, si je mange ça aussi.
Vous êtes végétarienne?
Non, mais j'ai essayé à manger les viandes un peu moins qu'avant.
Bon. Alors, Nexia... Je me sens un peu dans le devoir de vous présenter des excuses au nom de la France, qui ne vous a pas vraiment bien accueilli. En même temps, est-ce que vous avez conscience que la France accueille beaucoup de réfugiés? Et donc, il est un peu normal qu'elle soit débordée. Vous comprenez ça?
Oui, mais si je veux être honnête, j'ai de la chance. J'ai vraiment de la chance, mais il y a beaucoup de gens que je vois beaucoup de réfugiés qui sont vraiment dans les mauvaises situations. Ouais. Par exemple, le gouvernement donne argent, par exemple, 10 euros par jour pour les gens.
Ouais.
Et cet argent, ce n'est pas pour tout le monde. Je vois un homme avec sa femme, le gouvernement donne 100 120 euros, quelque chose comme ça. Et vous n'avez pas droit à travail, vous ne pouvez pas trouver la maison. Nous habitons comme chiens, désolé, mais c'est vrai. Et les gens qui travaillent dans les bureaux des réfugiés, ils traitent nous trop mauvais. Et oui, parfois, les gens réfugiés, ils sont impolis aussi. Et je comprends que travailler dans ces bureaux, ce n'est pas facile.
Non.
Vous ne trouvez pas beaucoup d'argent. Les bureaux, c'est sale, c'est chaud, froid. C'est vraiment difficile. Mais je pense qu'il peut être une meilleure situation pour tous les réfugiés. Parce que je pense que les têtes ne travaillent pas très bien. Les têtes de toute l'histoire des réfugiés et bureaux des réfugiés.
Quand vous dites « j'ai eu de la chance », vous pensez que c'est parce que vous êtes belle?
Franchement, oui. Et ça me fait tellement triste parce que je pense à les autres aussi. Si j'étais homme dans les rues, personne ne m'aide. Si j'étais moche dans les rues, personne ne m'écoute. Et peut-être maintenant j'étais là ou j'étais mourir maintenant dans les rues. Et...
Ça aurait sans doute été la même chose à Londres. Hein?
Oui, c'est vrai, c'est pas juste pour France.
Ah oui.
Et en fait, je pars. Que être réfugié en France, c'est difficile et c'est vraiment pire chose dans le monde. Mais je n'étais pas réfugiée dans ma vie avant. Donc, c'était permis. Donc, je peux parler de comment c'est, vous habitez comme réfugié en France.
Oui.
Et peut-être en Angleterre,
c'est
aux
pareil.
États-Unis. Peut-être c'est pareil. Donc, je ne sais pas.
Est-ce qu'on peut parler des hommes? Parce que les hommes ont été terribles tout au long de votre parcours. De ce photographe qui manque de vous violer pendant une séance photo à Téhéran, jusqu'à Léo et tous les autres qui, quand vous êtes arrivé en France, ont essayé d'abuser de vous. Est-ce que vous pensez que les hommes, en général, sont dangereux?
Non, ils ne sont pas dangereux parce qu'ils sont pour faire rien, spécialement en France. Si vous touchez les femmes sans droit, il y a police ici.
Ouais.
Dans mon pays, non. Je ne peux pas aller à la police.
Ouais.
Mais ici, non. Ils ne sont pas dangereux. Et je pense que les femmes peuvent être plus dangereuses que les hommes. Parce que les hommes, parfois, pensent avec les...
Le sexe.
Sexe. Mais les femmes ne pensent pas avec le sexe. Donc, je pense que parfois, les femmes peuvent être plus dangereuses que les hommes.
Dites-moi que vous en avez trouvé un. Un homme.
Et bien sûr, j'ai trouvé beaucoup de gens qui sont vraiment bons, gentils. C'est intéressant que toujours je vois beaucoup de hommes qui connaissent mon histoire, mais encore essayer même chose.
Ouais.
Mais dans le même temps, je ne peux pas dire tous les hommes, ils sont mauvais, toutes les femmes, ils sont mauvais. Ce n'est pas possible à dire ça. Il y a beaucoup de gens bons et mauvais dans tout le monde.
Ce
n'est pas grave, vous avez quelle religion, vous habitez où, vous naissez où, ce n'est pas grave. Donc, bon et mauvais, c'est dans tout le monde et tout le monde.
Ma question, c'était, est-ce que vous avez trouvé un amoureux? Un Français?
On verra.
Vous essayez. Je vous remercie beaucoup.
Merci
beaucoup
à vous.
Beaucoup, Nexia, de m'avoir confié votre histoire, qu'on retrouve donc dans ce livre, qui s'appelle « Dis adieu à ton corps » et qui paraît aux éditions du Cherche Midi.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.